Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Je suis Amélina Licht, psychologue et formatrice. Je vous propose ici de vous parler de la parentalité et de ses différents défis émotionnels. Je vais vous proposer des outils pour réguler le système nerveux, activer son nerf vague, améliorer ses relations avec son ou sa partenaire et ses enfants. Je suis formée entre autres à la méditation de pleine conscience, au psychotrauma, à l'EMDR et vous découvrirez le reste au fur et à mesure.
Bonjour Anne-Claire, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview qui est vraiment importante pour moi sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Ça me touche beaucoup de voir des femmes très épanouies, très heureuses, sans enfants, qui pour moi ont d'autres formes de maternité. Enfin, toi, tu nous donneras ton avis là-dessus, mais pour moi, il y a plein de formes de maternité et c'est pas forcément avoir un enfant. Et donc voilà, je vais te poser quelques questions par rapport à ça, mais d'abord j'aimerais te présenter moi avec mes mots à moi et j'aimerais ensuite que toi tu te présentes avec tes mots à toi. Pour moi, tu es vraiment une femme extrêmement inspirante, tu parles beaucoup du fait que tu as un peu touché le fond à un certain moment donné de ta vie, que tu as pu être angoissée, etc., mais tu as un parcours de résilience, de reconversion qui est assez qui force l'admiration, en tout cas pour moi. Et donc dans ta reconversion, moi ce que j'ai suivi, c'est que donc tu t'étais formée en tant que naturopathe et puis très rapidement en fait après tu as écrit des livres. Je crois que tu as publié 10 livres en 4 ans. T'as été devenue coach, t'es devenue coach de coach et aujourd'hui tu fais plein de programmes en ligne pour aider les entrepreneurs, notamment du bien-être, à créer et à vivre de leur activité. Voilà. Et voilà un petit peu moi ce que j'avais envie de te dire de toi. Et moi, j'étais vraiment heureuse de te rencontrer sur mon parcours parce que je trouve que tu dégages beaucoup de joie, beaucoup d'espoir. Et ouais, c'est un chemin qui est agréable d'être là, accompagnée avec toi. Moi, j'ai suivi ta formation Coach from the Heart, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et je continue de te suivre, bien sûr, sur les réseaux et sur les pages liées à Coach from the Heart. Et d'ailleurs, il va bientôt y avoir là un sommet des 21 jours vivre à partir du cœur. Donc, est-ce que toi, tu as envie de te présenter avec tes mots à toi, avec celle que tu es aujourd'hui?
D'abord, merci du fond du cœur pour ton invitation et de mettre de la lumière sur ce thème qui nous intéresse toutes les deux. Et aussi, merci pour qui tu es dans le monde et pour le fait que tu occupes ta place et que tu aides tellement les femmes à occuper leur place avec exactement ce qu'elles souhaitent créer pour leur vie. Donc, merci beaucoup de faire ce que tu fais. Merci aussi pour ta présentation. merci. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire au moment où on enregistre cet enregistrement. Moi, je suis à Bali. J'habite donc en Indonésie depuis quelques semaines. Les tropiques, c'est mon kiff. Et donc, voilà, j'ai vécu un temps comme digital nomade jusqu'à ce que je décide vraiment de couper le cordon avec la France. Et puis maintenant, j'habite vraiment en Indonésie. Et voilà, je fais ce que j'aime avec les gens que j'aime, pour des gens que j'aime. Je travaille avec le cœur et ça marche en fait, puisque mes activités aujourd'hui rencontrent un grand succès, sans compromis dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que vraiment, à part avec le Covid où ma vie sociale était un petit peu en berne, comme beaucoup de gens, j'ai pas fait de compromis sur mes amours, mes valeurs et aussi les thèmes que je décide de traiter dans mes activités, etc., etc. Et ça, c'est vraiment la chose dont je suis la plus fière, je crois.
Oui, et j'ai cru comprendre aussi que tu reversais une partie de tes bénéfices à des associations, à des causes qui sont importantes pour toi. Je trouve ça important oui. Parce que
c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis longtemps.
Super, merci. Et donc le thème qui nous anime aujourd'hui, c'est la question de la non-maternité. Pour toi, moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'était un choix. Et est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu as décidé ou tu sais que tu ne veux pas d'enfant?
Depuis que je suis petite fille, je le savais en fait. Dans ma famille, ça ne s'est pas très bien passé. L'exemple que j'ai eu avec mes parents et la connexion qu'ils n'avaient pas avec leurs enfants, ça m'a fait dire, bah, en fait, j'en veux pas de famille puisque c'est comme ça. Et donc, je sais très bien que mon premier avis sur la maternité, c'est un avis de réaction. En réaction à ce que j'ai vécu, je n'en veux pas. Et puis, quand même, en avançant sur mon chemin de guérison, j'avais la conscience que, bah, en guérissant, peut-être qu'un jour, je le voudrais. Et puis, en fait, non, ça n'a pas été le cas. Je ne l'ai pas souhaité. Même en allant de mieux en mieux, en créant des belles relations de couple, je ne l'ai quand même pas souhaité. Je pense que ce n'est pas mon chemin et je suis en paix avec ça.
Ok. Donc, tu as la sensation d'avoir toujours eu ce sentiment que tu n'aurais pas d'enfant, quoi.
Oui.
Ok. Et comment ça s'est inscrit dans ta vie de couple, du coup, ce choix ?
Pour moi, c'était tout à fait naturel de l'exprimer avec mes compagnons. Pour eux, ça n'a pas toujours été facile, parce que j'ai été souvent avec des hommes qui pensaient qu'un jour, je changerais d'avis. Ça, surtout quand j'étais plus jeune. Là, c'est différent, je vais avoir 40 ans. Je pense que voilà, les hommes que j'ai rencontrés ces dernières années ou que je rencontrerai peut-être dans le futur... À partir de la quarantaine, quand on dit « je veux pas d'enfant, j'en ai jamais voulu », je pense qu'ils n'attendent pas qu'on change d'avis comme quand on a 20 ans. Mais j'ai eu pas mal de compagnons qui attendaient que je change d'avis et qui ont dû bien se résoudre au fait que non.
Ok. Et du coup, tu penses que ça a été... c'est une raison de séparation qui a pu exister pour toi ou c'était pas forcément le sujet ?
Ça l'a été notamment avec un compagnon avec qui j'ai passé pas mal de temps. Et lui, très clairement, il attendait hein, que je change d'avis. J'avais 32 ans, il avait presque 10 ans de plus, à peine. Et pour moi, c'était clair que non, en fait. Et pour lui, c'était jamais très clair que non. Et il fallait vraiment que je le remette en face de la réalité à chaque fois.
Ok.
Il n'a toujours pas d'enfant. Hein.
Et il n'a toujours pas d'enfant.
Ouais, okay. 7-8 ans plus tard, il n'en a toujours pas.
Ok. Non. Et est-ce que tu ressens une certaine pression ? Donc là, il y a eu dans le couple peut-être une certaine pression que tu as pu ressentir de sa part, mais de manière plus large, de la famille, de la société, des amis, est-ce que tu as senti une pression par rapport à ça ?
Pas tellement. Je dirais que je me suis fait embêter. Plutôt, des questions qu'on m'a posées, des choses comme ça, mais ça n'a jamais été ressenti chez moi comme une pression parce qu'il n'y avait pas de prise, tu vois. C'est pas comme si j'avais des doutes. En fait, j'en avais pas. Je savais ce qui était juste pour moi. Je pense que c'est plus difficile pour les femmes qui hésitent et qu'on ne laisse pas hésiter en paix, tu vois. Alors que si tu sais que c'est non, les gens, ils viennent, ils essayent de te poquer, tu vois. Ah, quand est-ce que tu fais des enfants? Alors, regarde comment c'est merveilleux. Ma marmaille qui est là à la maison, quand est-ce que toi t'en fais aussi? Bah en fait, c'est presque une non-réaction, quoi. C'est, tu projettes sur moi quelque chose qui est de ton bonheur, mais moi, mon bonheur, il a une autre couleur. Laisse-moi vivre mon propre bonheur, qui sera différent du tien. En fait, j'ai jamais ressenti ça comme une pression. Je sentais que les gens projetaient quelque chose sur moi, comme si ils voulaient que je vive la même chose qu'eux. Mais mon histoire est différente de leur histoire.
C'est super intéressant ce que tu dis par rapport à l'hésitation. Parce que moi, je pense qu'effectivement, ça a été plus dur à partir du moment où j'ai commencé à hésiter. Parce que moi, pendant longtemps, donc, je ne voulais pas d'enfant. À un moment donné, j'ai commencé à hésiter et j'ai senti qu'en fait, j'avais plus de groupe d'appartenance. Parce que quand je ne voulais pas d'enfant, par exemple, il y a des groupes qui s'appellent No Kids. Enfin, il y a des livres sur le sujet. Enfin, il y a vraiment, même sur Facebook, des endroits pour discuter de ce choix-là. Mais quand on hésite, en fait... j'avais aussi bien sûr plein de personnes autour de moi qui savaient qu'elles voulaient un enfant, mais dans la zone grise entre les deux, j'avais pas vraiment d'interlocuteur en fait. Et effectivement, du coup, moi j'avais moins un soutien de groupe derrière moi et en me référant à d'autres. Et je pense que du coup, ça se sentait que j'étais plus facilement déstabilisée et déstabilisable par les autres. Que quand ma position était ferme et que effectivement il n'y avait pas de sujet quoi. Et du coup je trouve que c'est pas facile de douter en paix.
C'est comme si les gens essayaient de se faire basculer dans leur camp.
C'est ça.
Non. Ouais, c'est comme si les gens voulaient te faire basculer dans leur camp, alors qu'en fait, il n'y a pas de camp.
Ben non, c'est ça. Et puis, enfin, c'est tellement personnel comme choix que ça peut pas se passer en fonction des autres, quoi. Et donc toi, tu as eu plutôt des remarques, des choses comme ça que tu disais, plutôt qu'une pression. Est-ce qu'il y en a qui ont pu te faire du mal dans ces remarques, ou ça n'a
Oui,
jamais
des
été le cas?
remarques, des questions.
Ouais.
Bah non, parce que en fait, c'est pas comme si c'était, tu vois, quelqu'un qui me dirait tu veux pas d'enfant. C'est pas comme si on me disait que, enfin, tu vois, c'est ni bien ni mal pour moi. C'est neutre. C'est tu préfères le jus d'orange ou le jus de pomme? Tu préfères le chocolat noir ou le chocolat au lait? En fait, tu vois, c'est pas. C'est une préférence de vie, donc ça fait pas de moi une bonne personne ou une mauvaise personne, en fait. Il n'y avait pas d'interprétation derrière.
Parce qu'aujourd'hui, on peut entendre, en fait, qu'on fasse le choix. C'est ça aussi qui est terrible chez les femmes, c'est que qu'elle fasse le choix d'avoir un enfant ou de ne pas avoir d'enfant, dans les deux cas, on peut lui dire qu'elle est égoïste. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu chez les femmes qui veulent pas d'enfants et chez les femmes qui veulent un enfant. Est-ce que toi, tu sais quelque chose que tu as entendu et qui a pu te toucher?
Non. Peut-être de la part de ma mère à un moment, je pense qu'elle s'attendait tellement à ce que je fasse des enfants, ou mon frère aussi. Mon frère n'en a pas non plus, hein. À un moment, je sais pas, je pense que c'était comme une évidence pour elle. Et je lui dis, mais non, mais il n'y a pas d'évidence en fait. J'en fais si je veux en faire. Je dirais peut-être à ce moment-là, sentir qu'il y avait quelque chose qui était attendu de moi. Mais sans qu'on me demande mon avis, tu vois. Je dirais que c'est peut-être ça plutôt qui me dérange, tu vois. Ça aurait été ça.
Ouais,
Ouais.
d'accord, comme si c'était désubjectivé, quoi, comme si la décision c'était une décision qui t'appartenait pas, quoi.
C'est ça.
Ok, est-ce que toi t'as l'impression qu'il pourrait te manquer quelque chose pour être pleinement heureuse, pleinement épanouie, pleinement accomplie dans tes missions de vie, dans ton chemin, quoi.
Oui, je voudrais un chat, un chien, un jardin. Ce que je n'ai pas aujourd'hui. Et voilà.
Ok, donc c'est bien ce que tu reflètes, quoi, que hein, c'est pas quelque chose qui peut nourrir une peur d'avoir des regrets ou des choses comme ça, enfin d'être dans la peur, le fait de faire ce choix-là, c'est pas forcément quelque chose qui suscite de la peur de l'avenir, quoi.
Alors là, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est vraiment. Enfin, c'est vrai que j'en ai jamais voulu. Donc c'est pas comme si je me disais un jour je vais regretter de ne pas en avoir voulu, tu vois. Ce serait tordu.
Ok. Et j'avais aussi en questionnement, je me demandais ce que tu pourrais dire aux femmes qui auraient du mal à s'autoriser à faire ce choix de non-maternité, parce que peut-être qu'elles n'ont pas le même parcours que toi, qui a fait un grand parcours quand même, tu as fait beaucoup de travail sur toi, etc., etc. Et tu es aussi pleinement épanouie professionnellement. Enfin, voilà, ta vie est bien remplie par ailleurs. Donc, tout le monde ne peut pas forcément s'identifier à ça, mais il y a peut-être des choses auxquelles tout le monde peut s'identifier dans ta vie aussi. Est-ce que, en tout cas, toi, tu auras envie de partager ouais, un message à ces femmes-là?
Je pense que le but de la vie, qu'on soit femme ou même qu'on soit homme, c'est de se rencontrer pleinement et de rencontrer différentes parties de soi et d'apprendre à s'aimer et d'exprimer qui on est dans le monde. Ça passe par une vision de la vie très créative et très fertile quelque part. Tu vois, être fertile avec sa vie, créatif avec sa vie. Et je pense que ça, c'est le but de la vie. Et que ça donne des enfants ou que ça donne des projets ou que ça donne différentes façons d'être au monde comme un artiste. Eh ben, en fait, on a gagné, tu vois, c'est gagné. Et le fait que ce soit sous la forme d'une famille avec des enfants, c'est une des couleurs possibles dans la palette de couleurs de ce qui est possible pour la vie. Et il y en a plein d'autres. Et donc, je dirais à ces femmes, est-ce que vous vous connaissez ? À quel point vous vous connaissez ? À quel point vous êtes allées rencontrer les parts de vous ? À quel point vous vous autorisez à être fertile dans la vie et créative avec votre vie ? À quel point vous êtes les artistes de vos vies ? Et quelle couleur vous pensez que va prendre votre art ? Est-ce que ça va prendre un peu une couleur teintée de famille et d'enfant ? Ou est-ce qu'il y aura d'autres choses ? Tout simplement.
Merci. Merci. Et j'accompagne aussi donc des femmes hein, qui sont dans ce choix-là de non-maternité, qui ont peur de se retrouver seules avec leur chat. Enfin, il y a vraiment ce truc de tout le monde autour de moi va avoir des enfants, moi je serai en décalage, je ne vais pas garder de capacité à sociabiliser. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose par rapport à ça ?
Oui, que pour moi... La façon dont moi je l'ai vécu quand j'ai grandi, hein. Donc là je peux parler que depuis mon expérience à moi. Aller voir mes grands-parents ou passer du temps avec mes parents par obligation, parce que c'est des liens de sang, je n'ai jamais trouvé ça très sain. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de manipulation, beaucoup d'attachement, qui n'était pas en lien avec l'amour inconditionnel, tu vois, c'était pas très joli. La façon dont je l'ai vécu, j'ai trouvé que c'était même parfois violent, parfois très difficile à vivre. Et je dirais que ce qui est important, c'est de se concentrer sur le lien d'amour. Pour moi, ça a vraiment été un voyage, tu vois, la thérapie, reconnecter à l'amour pour moi, tu vois, rencontrer mon enfant intérieur, me reparentaliser, et puis m'ouvrir à l'amour à l'extérieur et me connecter avec l'énergie d'amour, avec les gens autour de moi. Aujourd'hui, je pense que je suis capable de créer des connexions qui sont solides et qui sont vraiment aimantes et qui sont pas trop, ou voilà, du mieux que je peux, pas trop dans l'attachement et dans la manipulation. Et je pense que comme j'ai ces talents maintenant, ces compétences, que je suis capable de le faire, je serai jamais seule. Parce qu'en fait, j'ai acquis des qualités d'être, des qualités humaines qui font qu'on a envie d'être avec moi. En fait, c'est cool d'être avec moi. Et donc, je n'imagine pas qu'un jour je serai vieille et seule et que personne ne m'aidera parce que je serai toujours cette femme qui est connectée à son cœur, tu vois, à moins qu'il m'arrive des choses horribles et que je devienne une vieille aigrie, tu vois. Mais si je fais toujours l'effort d'être connectée à l'amour, il y aura toujours des gens aimants autour de moi et ils seront pas là par obligation. Ça, c'est quelque chose dont je suis sûre. Ils seront là parce qu'en fait, ils aimeront cette relation, tu vois. Et pour moi, c'est beaucoup plus juste que d'avoir fait des enfants pour qu'ils continuent de venir nous voir ou qu'ils s'occupent de nous quand on se fait remplacer la hanche, tu vois. Enfin, c'est tellement plus évident aujourd'hui.
Ouais. Et pour développer ces qualités, est-ce que tu aurais aussi des propositions, des pistes que ces femmes pourraient suivre pour se connecter à l'amour, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, hein, se reconnecter aux différentes parts de soi, etc., etc. Mais des fois, ça peut pas paraître très concret pour certaines personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais des outils, des choses qui, toi, t'ont profondément aidé à ça ?
Oui, peut-être c'est déjà la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui est un peu off, tu sais, disharmonieux dans les relations familiales et de réussir à mettre le doigt dessus. Les choses, tu sais, de l'ordre de la manipulation, des choses comme ça. Parce que je pense que dans beaucoup de familles, les gens, comme il y a de l'amour et puis il y a de l'attachement, les gens n'osent pas mettre le doigt dessus et dire « Ah oui, effectivement, là, ma mère me manipule » ou « Je manipule ma mère » ou tu vois. Et déjà, réussir à l'exprimer, peut-être aller en thérapie, faire la différence entre ce qui est amour et ce qui est non-amour, tu vois. Faire cette exploration pour après définir comment nous, on a envie de se comporter avec les autres. Et plus le faire de façon réactive, mais être beaucoup plus créatif et être beaucoup plus dans son cœur, dans la relation, tu vois. Et pour ça, souvent, il faut du temps d'observation de soi, il faut raconter son histoire à un thérapeute et prendre le temps de comprendre ce qui fait sens dans le relationnel, tu vois, dans les histoires qui se sont passées dans le passé et qui continuent d'être au présent, tu vois, comment on se comporte avec l'autre.
Oui, donc d'abord s'observer observer nos relations, comment on les met en place autour de nous. Et ensuite seulement pouvoir effectivement, avec du temps et un thérapeute, déployer d'autres façons d'être en relation avec les autres, quoi.
C'est ça.
Super inspirant. Merci beaucoup, Anne-Claire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi tu veux partager sur ce sujet de la non-maternité ou un message de fin que tu auras envie de donner?
Oui, un jour, il y a une copine à moi, il y a des années, il y a au moins 12 ans de ça, peut-être même plus. Elle m'a envoyé un texte, alors je sais plus, je crois que le titre, c'est La Brigade des Tantes. Si tu veux le retrouver à un moment, c'est un texte que j'avais trouvé très inspirant. Je pense qu'il est de la personne qui a écrit Eat, Pray, Love, Elizabeth Gilbert, si je dis pas de bêtises. Et Elizabeth Gilbert, qui elle non plus n'a pas d'enfant, expliquait que de tout temps, il y a toujours eu des femmes qui n'avaient pas d'enfants dans les tribus, dans les villages, tout ça. Et c'était des tantes, tu vois. Et donc, elles avaient quand même un rôle. Elles étaient là, elles pouvaient être confidentes, elles pouvaient être, tu vois, juste, elles étaient là en soutien. Et c'était tout à fait naturel qu'il y ait un pourcentage de femmes qui n'aient pas d'enfants, en fait. C'est juste comme il y a toutes les couleurs. Il y a des gens qui sont chauves, il y a des gens qui sont blonds, il y a des gens qui sont bruns, il y a des gens qui sont roux, tu vois. Et c'est tout. C'est juste qu'il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. C'est juste ce qui est. Et je pense que c'est bien de remettre les choses en perspective. C'est pas parce que on peut faire des enfants qu'on doit faire des enfants. Il faut le sentir, tu vois. Il faut sentir si c'est juste pour notre vie. Parce que c'est quand même quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir en arrière. Et puis, si, peut-être je peux affirmer quelque chose qui est un peu un avis impopulaire. Allez, vas-y. Moi, j'aime bien un peu rentrer comme ça. Je peux partager un avis impopulaire?
Ah oui, partage, partage.
Allez, on y va. Moi, je pense qu'on vit dans une société qui n'est pas très évoluée. Et que si la société était un petit peu plus évoluée, les gens feraient des enfants moins vite et ils feraient des enfants plus en conscience, tu vois. C'est-à-dire qu'ils feraient des enfants après s'être rencontrés soi-même, tu vois, eux-mêmes, avoir rencontré les différentes parties d'eux, voir ce qu'ils ont envie d'exprimer, comme je disais tout à l'heure, en tant que créatif, tu vois, artiste de la vie. Et ensuite, ils décideraient de mettre une âme au monde, tu vois, sous la forme d'un enfant. Et ils le feraient avec beaucoup de conscience et avec beaucoup d'amour. Et pas comme des lapins, ou pas pour faire comme papa et maman, ou cousin, cousine, parce que tout le monde fait des enfants et qu'il faut en avoir trois parce que c'est comme ça. Tu vois? Je rêve d'un monde un petit peu plus évolué où les gens prennent plus de temps pour réfléchir, pour se poser avant de mettre des enfants au monde, et d'un monde où tout le monde est avant aller en thérapie pour éviter de refiler leurs valises à leurs enfants. Tu vois? Ça, je pense que ce serait vraiment joli, tu vois, ce serait beau à voir. Un monde où tout le monde est allé en thérapie, a détoxifié son corps, nettoyé son corps, fait un travail en transgénérationnel, etc. Dans le meilleur des mondes, bah, il y en aurait beaucoup moins des enfants. Et ils seraient certainement aussi. Ouais, ils arriveraient dans la vie peut-être avec moins de bagages, avec plus de légèreté, et je pense que la société évoluerait peut-être un petit peu plus vite. Voilà, c'est juste mon avis.
Waouh, merci. Merci. Et c'est vrai que ce que tu dis, moi, ça me fait écho avec tout ce qu'on demande à des parents qui veulent adopter, par exemple. On leur demande justement de justifier d'un équilibre psychologique, économique, social, d'une belle maison, etc., etc. Et en fait, pour avoir un enfant, naturellement, on ne nous demande pas le quart du huitième de ça, quoi. Et c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. Il y a une espèce de grand écart entre les deux qui est un peu surprenant, quoi. Ok. Ben, merci
Tu peux juste
beaucoup.
aller dans un bar et tu peux avoir un enfant dans 9 mois. Allez.
C'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir après sur cet enfant, quoi. Ou pas, hein, parce que des fois, il y a des enfants très résilients et enfin, voilà, tout se passe aussi des fois de manière surprenante et de manière aussi très positive, mais quand même, quoi. C'est vrai que faire un enfant en conscience ou faire un enfant sans prendre conscience de tout ce que ça a comme impact, c'est, je pense que c'est une grosse... Il y a une grosse différence entre les deux chemins, quoi. Oh, merci beaucoup, Anne-Claire. Je suis vraiment ravie que tu aies pu partager ce message. Je pense que c'est vraiment un message important parce que je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, de femmes, mais aussi d'hommes qui font le choix et qui vont faire le choix de ne pas avoir d'enfants. Aussi par rapport à l'éco-anxiété, par rapport à la peur de l'avenir, par rapport aux crises, pas que climatiques, mais aussi sociales, financières, etc. etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent chez les jeunes générations, chez ceux qui ont aujourd'hui 20 ans. Mais c'est quand même encore quelque chose d'assez nouveau et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, merci beaucoup d'avoir porté ta parole sur ce sujet et d'avoir répondu à mes questions.
Avec plaisir.
Donc, c'est la
merci
fin de
ce podcast. Merci pour ton invitation.
Avec joie. C'est la fin de ce podcast et puis on se retrouve pour d'autres podcasts très bientôt. Anne-Claire, je vais arrêter l'enregistrement.